الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذا اليوم هو التاسع من شهر المحرم من عام 1441 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الدرس الثاني عشر من قراءة الرسالة التبوكية للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. Nous sommes le 8 septembre 2019 et nous entrons dans le 12e cours et l'avant-dernier, Inch'Allah, de l'étude de la lettre de Tabouk de l'imam Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde et le recompense et le récompense avec largesse. Nous sommes toujours en train de méditer les versets concernant l'histoire du prophète Ibrahim alayhi salam, quand les anges sont venus à lui, lui annoncer la bonne nouvelle de la naissance de son enfant qui allait être Ishaq alayhi salam. Et vous connaissez la raison pour laquelle l'auteur, rahimahullah, mentionne cette histoire ici. Ce n'est qu'à titre d'exemple de méditation du Coran qu'il a cité cette histoire, afin de nous montrer que les gens n'ont pas la même compréhension et n'ont pas le même degré ou le même niveau. Il nous montre tout ce que l'on peut tirer comme leçon et utilité de cette histoire, alors que beaucoup n'auraient pas pu les voir, malgré leur clarté. Mais leur clarté apparaît aux gens de science. Et la dernière chose sur laquelle nous nous étions arrêtés, ou que nous n'avions pas encore commencé du moins, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque dans le contexte nous avons appris que ces anges envoyés par Allah azza wa jal à Ibrahim alayhi salam, se sont présentés à lui sous la forme humaine, il les a reçus comme des invités qu'il a voulu honorer et auxquels il a voulu offrir un repas qu'ils n'ont pas mangé, car ils n'étaient pas des hommes. Ibrahim alayhi salam, ayant compris quelque chose, leur a alors demandé la raison de leur venue. C'est alors qu'ils lui ont fait part de cette dernière, à savoir, ils ont été envoyés par Allah azza wa jal pour lui annoncer la naissance de son enfant, certes, mais aussi pour détruire les gens du peuple de Lot, le prophète Lot alayhi salam, qui s'adonnait à cette turpitude que vous connaissez tous. Et dans ce contexte-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit, قال ابن القيم رحمه الله ثم قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. Dans le sens rapproché des deux versets, il nous dit subhanahu wa ta'ala, nous en fîmes sortir alors ce qu'il y avait comme croyants, mais nous n'y trouvâmes qu'une seule maison de gens soumis. Et ici Allah azza wa jal nous montre que les anges envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala ont, par la permission d'Allah, détruit le peuple de Lot qui commettait cette action abominable. Mais Allah azza wa jal, dans ce peuple, a sauvé les croyants qui s'y trouvaient. Qui s'y trouvaient, c'est-à-dire dans ce village où ils ont été envoyés. Mais il y a quelque chose qui est remarquable ici, ce que va nous dire l'auteur, rahimahullah, فَفَرَّقَ بَيْنَ الْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ هُنَا لِسِرٍ اِقْتَضَاهُ الْكَلَامِ. Allah subhanahu wa ta'ala a fait la différence entre la foi, l'iman, et l'islam, l'islam. Car la sagesse impliquait qu'il agisse ainsi, subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « فَأَخْرَجَنَا مَنْ كَانَ فِيهَا أَيْ فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَيْ نَجَّيْنَاهُمْ وَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنَ الْهَلَاكِ. » Nous en fîmes sortir, c'est-à-dire de ce village, alors ce qu'il y avait comme croyants. Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé de ce village qui va être châtié les croyants qui s'y trouvaient. Il les fit alors sortir, c'est-à-dire sortir de ce châtiment qui allait les attendre. Ils ont donc été sauvés, ces gens-là. Mais en même temps, dans tout ce village, Allah Azzajal nous dit « فَمَا وَجَدَنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ » C'est-à-dire, dans le sens rapproché, « mais nous n'y trouvâmes qu'une seule maison de gens soumis. » La plupart étaient des kuffars, des ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y avait une seule maison de gens qui ont été appelés muslimoun. Et Allah Azzawajal nous dit juste avant qu'il a sauvé ce qu'il a appelé al-mu'minoun, les croyants. Il y a une différence entre al-muslim et al-mu'min, ou al-islam et al-iman. Et ici on la voit. Comment est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous parle d'un endroit où il va sauver des croyants, ces croyants qui habitent dans une maison? Mais cette maison a été décrite comme étant une maison de muslimoun, c'est-à-dire de musulmans. Pourquoi à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala n'a-t-il pas dit « فَمَا وَجَدَنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ » Mais nous n'y trouvâmes qu'une seule maison de croyants. Puisque dans le verset précédent, il dit, dans le sens du verset rapproché, nous en fîmes sortir alors ce qu'il y avait comme croyants. Il fit sortir de ce village les croyants pour ne pas les châtier. Mais en même temps, dans ce village, il n'y avait qu'une seule maison de musulmans. Pourquoi croyants et après musulmans? La réponse, c'est parce que dans cette maison habitait Lout, alayhi salam, mais pas seulement. Son épouse et sa descendance. Mais son épouse n'était pas croyante. Son épouse montrait l'islam. Et lorsque les gens montrent l'islam alors qu'ils ne le sont pas, ils sont des hypocrites. N'est-ce pas? Et l'hypocrisie, al-nifaq, est une catégorie de mécréance majeure. Le Cheikh Ibn al-Uthaymin, rahimahullah, nous dit dans ces versets-là que lorsque dans une société, les gens montrent l'islam bien qu'ils soient mécréants, donc ce sont des hypocrites, on va appeler cette société une société de muslimoun. Pourquoi? Parce que l'islam, ça parle des actions apparentes et eux montrent les actions apparentes. Bien qu'en réalité, ils ne sont pas des vrais musulmans dans le sens voulu religieux, vous comprenez? Seulement, ils montrent. C'était le cas de la femme de Lout, alayhi salam. Elle montrait l'islam et cachait la mécréance. Pour cela, dans surah al-Tahrim, l'interdiction à la fin de la surah, Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte l'histoire de deux femmes, l'épouse de Lout et l'épouse de Nuh, qui ont trahi leur époux. La trahison voulue, comme nous dit le Cheikh Ibn al-Uthaymin, rahimahullah, n'est pas la trahison de la perversion qui viendrait à l'esprit de l'un d'entre nous, mais c'est la trahison du fait qu'elle cachait le kufr, elle cachait la mécréance. Étant donné qu'il y avait dans cette maison une personne qui n'est pas croyante, mais qui montrait l'islam en apparence, Allah Azza wa Jal a décrit cette maison comme une maison de muslimoun. C'est pour ça qu'il y a, comme on le comprend, une différence entre la foi qui implique la vraie croyance et d'accepter, d'adhérer, de suivre, d'appliquer ce qui découle de la véritable croyance. Ce n'est pas le cas de la femme de l'autre. On ne pouvait donc pas dire c'est une maison de croyants. Alors on a dit c'est une maison de musulmans, car tout croyant est forcément musulman. C'est le cas de l'autre et ceux qui l'entourent. Et quant à elle, elle montrait l'islam, mais en réalité, elle ne l'était pas. L'auteur, rahimahullah, a dit « فَفَرَّقَ بَيْنَ الْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ هُنَا لِسِرِّنِ اقْتَضَاهُ الْكَلَامِ » Pour un secret, Allah Azza wa Jal a fait la différence entre la foi et l'islam. « فَإِنَّ الْإِخْرَاجَ هُنَا عِبَارَةٌ عَنِ النَّجَاهِ » Quand Allah nous dit qu'il les fit sortir, c'est-à-dire qu'il les sauva, وَإِخْرَاجُ نَجَاتٍ مِنَ الْعَذَابِ Il les sauva du châtiment. وَلَا رَيْبَ أَنَّ هَذَا مُخْتَصٌ بِالْمُؤْمِنِينَ الْمُتَّبِعِينَ لِلْرُسُلِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا Et nul doute que le fait de sauver du châtiment ne peut être donné qu'à ceux qui sont croyants, tant bien dans l'apparent que dans le fort intérieur. Donc quand Allah Azzajal a parlé de sauver, il a parlé des croyants. Ce sont eux qui sont sauvés par Allah, subhanahu wa ta'ala. Wa qawlu, fama wajadana fiha ghayra baytin minal muslimin. Et dans le sens de la parole, nous en fîmes sortir, mais nous n'y trouvâmes qu'une seule maison de gens soumis. Lamma kana al-mawjuduna min al-mukhrajin awqa asma al-islam 'alayhim li'anna imra'at Lut kanat min ahli hadha al-bayt wa hiya muslimatun fi adh-dhahir. Quant à la maison, ils s'y trouvaient les croyants qu'Allah a sauvés, mais ils s'y trouvaient aussi une personne qui est l'épouse de Lut alayhi salam, qui n'était pas croyante, mais elle montrait en apparence l'islam. فَكَانَتْ فِي الْبَيْتِ الْمَوْجُودِينَ لَا فِي الْقَوْمِ النَّاجِينَ. Elle fit alors partie des gens présents dans la maison, qui étaient musulmans, mais elle ne fit pas partie des gens sauvés, qui eux étaient les croyants. وَقَدْ أَخْبَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ عَنْ خِيَانَةِ امْرَأَةِ لُوطٍ وَخِيَانَتُهَا أَنَّهَا كَانَتْ تَدُلُّ قَوْمَهَا عَلَى أَضْيَافٍ وقلبها معهم وليست خيانة فاحشة فكانت من أهل البيت المسلمين ظاهرا وليست من المؤمنين الناجين ومن وضع دلالات القرآن وألفاظه مواضعها تبين له من أسراره وحكمه ما يهز العقول ويعلم معه تنزله من حكيم حميد. Celui qui médite les termes du Coran et la façon dont ils sont ordonnés dans ce noble livre, verra très clairement les secrets qu'il renferme et les sagesses, de telle sorte à ce qu'il soit abasourdi. Et il se rende compte avec la grande certitude que c'est vraiment un livre qui émane d'Allah, le sage, le digne de louange, subhanahu wa ta'ala. Wa bihada kharaja al-jawabu ani su'ali al-mashhur. وهو أن الإسلام أعم من الإيمان فكيف استثنى الأعم من الأخص وقاعدة الاستثناء تقتضي العكس وتبين أن المسلمين مستثنون مما وقع عليه فعل الوجود والمؤمنين غير مستثنين منهم بل هم المخرجون الناجون. Donc je vous ai déjà résumé tout ce qui est dit ici. Ensuite l'auteur nous dit: وقوله تعالى وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. Dans le sens du verset, et nous y laissâmes un signe pour ceux qui redoutent le douloureux châtiment. Allah Azza wa Jal veut nous montrer que ceux qui savent tirer profit des signes et en faire des leçons utiles pour eux, leur vie, ce sont ceux qui redoutent et craignent le châtiment d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. L'auteur nous dit: فيه دليل على أن آيات الله سبحانه وعجائبه التي فعلها في هذا العالم وأبقى آثارها دالة عليه وعلى صدق رسله إنما ينتفع بها من من يؤمن بالمعاد ويخشى عذاب الله. كما قال تعالى في موضع آخر: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. الله ici veut nous montrer, subhanahu wa ta'ala, que ceux qui savent tirer profit des signes d'Allah et de ses versets sont ceux qui craignent le châtiment et le retour vers Allah. Il nous cite ensuite certains versets. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le sens rapproché du verset: il y a certes en cela un signe pour celui qui craint le châtiment de l'au-delà. Ainsi les signes, seuls ceux qui craignent le châtiment d'Allah savent en tirer profit. وقال تعالى سيذكر من يخشى. Dans le sens du verset, se rappellera très certainement celui qui craint. C'est ceux qui craignent qui se rappellent. C'est à eux que le rappel est profitable. Pour cette raison, celui qui ne craint pas, quand bien même 1000 rappels lui seraient proposés, 1000 versets, 1000 hadiths, il ne saurait pas en tirer profit car le cœur est absent. Il n'est pas habité par la crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Puis, proportionnellement à cette crainte, l'utilité va prendre sa place dans le cœur de la personne. Et les parts sont des dons qu'Allah offre à qui il veut. Qu'Allah Azza wa Jalla nous donne une grande part de cela. L'auteur dit ensuite, فَإِنَّ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ رَايَتُهُ أَنْ يَقُولُ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ أَصَابَهُمُ الدَّهْرُ كَمَا أَصَابَ غَيْرَهُمْ وَلَا زَالَ الدَّهْرُ فِيهِ الشَّقَاءُ وَالسَّعَادَةُ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ بِالْآخِرَةِ وَأَشْفَقَ مِنْهَا فَهُوَ الَّذِي يَنْتَفِعُ بِالْآيَاتِ وَالْمَوَاعِظِ. Celui qui ne craint pas en au-delà, il dira de toutes ces nations qui ont été détruites par Allah subhanahu wa ta'ala, qu'elles ont été atteintes par le temps. Ils attribuent ce qui se passe au temps. C'est le temps qui leur a fait ça, car ils ne sont pas croyants. Ils ont été touchés par le temps, et dans le temps il y a la joie tout comme la tristesse. Alors que ceux qui craignent l'au-delà, ils savent tirer profit des versets et des exhortations d'Allah. Wal maqsoudu bihada, innama huwa at-tamthil wa at-tanbih على تفاوت الأفهام في معرفة القرآن واستنباط أسراره وإثارة كنوزه واعتبر بهذا غيره والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. Après avoir clôturé ce chapitre dans lequel l'auteur rahimahullah a voulu montrer l'importance de la méditation du Coran, mais aussi que les gens sont différents dans leur compréhension, il nous dit ce qui est voulu par tout cela, ce chapitre, ce qu'il a traité dans ce chapitre, comme les exemples qui ont été donnés par Allah dans le Coran, dans ces versets, c'est de connaître et comprendre que les gens varient dans leur compréhension qu'ils ont et leur connaissance du Coran, et dans le fait de savoir en tirer les leçons et les jugements, tout comme les trésors. Il dit, prends donc cet exemple comme une leçon pour les autres. C'est-à-dire, souviens-toi, au début je t'ai dit, à mon avis, tu ne vas savoir tirer que telle et telle chose de ces versets. Mais en réalité, regarde tout ce que tu peux tirer. Il en est ainsi pour tout le Coran. Donc il t'invite à méditer le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais comme nous l'avions dit, cette méditation du Coran ne doit pas être faite à la manière des gens égarés. C'est pour cela que les savants ont écrit des livres pour montrer les fondements du Coran, les fondements de l'explication du Coran, tels que l'imam Sa'di, rahimahullahu ta'ala, Al-Qawa'id al-Hisan, un livre qu'il a écrit justement pour montrer, pour apporter des règles qui permettent à la personne qui veut méditer le Coran de ne pas dévier de la voie des salafs. Et combien ont inventé des choses soi-disant en prenant pour preuve des versets du Coran. Ils ont été rentrés dans les calculs, il y a tel mot tant de fois, donc ça veut dire qu'il va arriver telle chose à telle année, il y a tant de fois et j'en passe. Et ça ne vient pas de la voie des salafs. Donc dans le Coran et l'explication et la compréhension, c'est la voie des salafs, donc, tout comme tout autre chemin d'ailleurs de la religion, alhamdulillah. L'auteur rahimahullah passe à un nouveau sous-chapitre, qui est l'avant-dernier, et dit « Faslun » sous-chapitre. « وَالْمَقْصُودُ أَنَّ الْقَلْبَ لَمَّا تَحَوَّلَ لِهَذَا السَّفَرِ طَلَبَ رَفِيقًا يَأْنَسُ بِهِ فِي السَّفَرِ فَلَمْ يَجِدْ إِلَّا مُعَارِضًا مُنَاقِضًا أَوْ لَائِمًا بِالتَّأْنِيبِ مُصَرِّحًا وَمُعَرِّضًا أَوْ فَارِغًا عَنْ هَذِهِ الْحَرَكَةِ مُعْرِضًا وَلَيْتَ الْكُلَّ كَانُوا هَكَذَا فَلَقَدْ أَحْسَنَ إِلَيْكَ مَنْ خَلَّاكَ وَطَرِيقَكَ وَلَمْ يَطْرَحْ شَرَّهُ عَلَيْكَ كما قال القائل إنا لفي زمن ترك القبيح به من أكثر الناس إحسان وإجمال وإجمال وإذا كان هذا المعروف من الناس فالمطلوب في هذا الزمان المعاونة على هذا السفر بالإعراض وترك اللائمة والاعتراض إلا ما عسى أن يقع نادرا فيكون غنيمة باردة لا قيمة لها. Après avoir traité tout cela, l'auteur, rahimahullah, arrivant à la fin, nous dit que le cœur, lorsqu'il décide d'entreprendre ce voyage vers Allah, subhanahu wa ta'ala, cette émigration vers Allah, il va rechercher naturellement un compagnon dans cette route. Il fait allusion aux fréquentations. Car les fréquentations ont un impact avéré sur la personne dans son cheminement vers Allah. Si la personne décide de fréquenter ceux qui l'aideront à cheminer vers Allah, alors elle réussira très certainement. Mais si elle décide de fréquenter ceux qui éloignent les gens du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle perdra. Elle n'aura que ses mains à mordre le jour dernier. Et l'auteur rahimahullah parle donc de l'importance de chercher un compagnon de route dans ce voyage vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il dit que dans la plupart des cas, il ne trouvera qu'un opposant qui le contradira, qui lui lancera des critiques, des blâmes, ou alors quelqu'un qui se détournera de lui, ne l'aidera pas ni ne le suivra, et ne lui fera aucun mal. Il dit, celui-là c'est le meilleur. Et donc, quand tu chemines vers Allah subhanahu wa ta'ala, tu es un étrange. Tu es étrange, tu es un étranger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Bada al-islamu ghariban, wa sayaudu ghariban kama bada, fatouba lil-ghuraba. » L'islam a commencé étranger, il deviendra étranger comme il le fut. N'est-ce pas, Hakim? Si tu fais, tu poses tes deux mains comme ça, tu vas t'endormir. L'islam a débuté étrange et il terminera étrange comme il le fut. Bonne annonce, bonne nouvelle alors aux étrangers. Au point où certains salafs disaient, celui qui ne se sent pas étranger, il n'est pas dans la sunna. S'il se sent bien dans le monde où règne le shirk, le kufr, al-bid'a, al-kaba'ir, al-haram, al-dalal, l'égarement, la déviance du chemin d'Allah, subhanahu wa ta'ala, la mécréance, le polythéisme, la bid'a, il est au milieu de tout ça, et il ne se sent pas étranger. Il a un problème dans son qalb, il a un problème dans son cœur. Car les gens qui se cramponnent à la vérité voulue par Allah, subhanahu wa ta'ala, sont peu. Et ceux qui suivent le faux, c'est la plupart des gens, comme il le dit très clairement dans le Coran, وَإِن تُطِعَ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Et si tu obéis à la majorité des gens de la terre, ils t'égareront de la voie d'Allah. C'est pour cela que les savants ont dit et toujours dit, الْعِبْرَةُ لَيْسَتْ بِالْكَثْرَةِ وَالْعِبْرَةُ إِنَّمَا هِيَا بِاتِّبَاعِ الْحَقِّ. La vérité n'est pas contenu dans le nombre. En d'autres termes, le nombre n'est pas un gage de vérité. Mais ce qui est gage de la vérité, c'est de suivre ce qu'Allah a prescrit. Subhanahu wa ta'ala, même si les gens qui suivent ce chemin ne sont pas nombreux. C'est le cas. Et ça le sera toujours d'ailleurs. Donc dans ce cheminement vers Allah, soit tu trouves des gens qui te trouveront bizarre, étrange. Quand tu voudras appliquer une sunna, quand tu voudras adhérer à la croyance authentique de l'islam, quand tu voudras vivre et imiter ton messager, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons, lorsque tu voudras te tenir comme eux dans le comportement, dans les moralités, ils diront de toi, il est bizarre. Et quand tu les appelleras au bien et leur interdiras le mal, ils diront de toi, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle religion qui nous a encore amenés? Qui est-ce qui l'écoute? Qui est-ce qui l'a engrainé encore une fois? Et ainsi de suite. Tout cela n'a aucune valeur pour le croyant dès lors qu'il est convaincu que ce qu'il fait, il le fait avec preuve du Coran et de la Sunna. Cela ne veut pas non plus dire, cher frère, que dès lors que tu suis la vérité, il t'est permis de regarder les gens avec l'œil de l'orgueilleux, de les dénigrer, et de croire que toi tu es méritant et eux non. Cela ne veut pas dire ça en aucun cas, mais d'ailleurs l'auteur va en parler d'ici peu, incha'Allah. Mais dans ce chemin vers Allah, le meilleur parmi ces gens-là, c'est celui qui, certes, il ne te suit pas, il ne te porte aucune considération, Peut-être que pour lui, ce que tu fais, c'est comme il dit, n'importe quoi, mais il ne s'oppose pas, il te laisse dans ta route. Ça, c'est le meilleur d'entre eux, nous dit l'auteur. Rahimahullahu ta'ala. Et il t'a fait du bien, car il t'a épargné de son mal. L'auteur, rahimahullah, dit, et ce qui est voulu dans cette époque, c'est de s'entraider dans ce voyage vers Allah, subhanahu wa ta'ala, et de se détourner de tout ça, de se détourner de toute forme d'opposition que manifesteraient les opposants à la voie que tu suis, et de n'y prêter aucune attention dès lors que tu es convaincu, avec preuve encore une fois, que tu suis la vérité aimée par Allah, subhanahu wa ta'ala, sauf quand c'est un conseil qui t'est donné pour corriger une erreur de ta part dans ton cheminement vers Allah. Alors, c'est un butin qui t'est offert, dit l'auteur, rahimahullah ta'ala. Il dit ensuite, وَيَنْبَغِي أَلَّا يَتَوَقَّفَ الْعَبْدُ فِي سَيْرِهِ عَلَى هَذِهِ الْغَنِيمَةِ بَلْ يَسِيرُ وَلَوْ وَحِيدًا غَرِيبًا فانفراد العبد في طريق طلبه دليل على صدق المحبة. Le fait que l'auteur, le fait que l'individu se sente seul dans cette route qu'il suit vers Allah, subhanahu wa ta'ala, mais qu'il continue malgré sa solitude et son étrangeté, est l'indice de la véracité de son amour pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Une personne d'Afrique, d'un des pays d'Afrique, m'a fait part d'un exemple, aujourd'hui. Et cet exemple, il correspond avec cela. Dans un village très éloigné, où les gens sont pauvres, deux voitures sont arrivées, de belles et grosses voitures, avec les vitres fumées ou teintées, comme ils disent. La vitre s'est ouverte, et le chef du village a été appelé. La personne à bord de la voiture était un pasteur, hein, quelqu'un qui appelle au kufr, et qui est venu dans son village les appeler au kufr. Et il a dit au chef de ce village, il lui a dit, « Ne vois-tu pas la misère dans laquelle tu vis, la difficulté, les peines que tu as affrontées ? Tu es musulman ?»« Oui, lui répond le chef de village. » Il lui dit, « Qu'est-ce que cela t'a apporté ?» Regardez l'appel au kufr. « Qu'est-ce que cela t'a apporté ?» C'est normal parce que lui, il ne parle que de dunya, il est enfermé dans la dunya. Il ne sait pas le djanna, le paradis qu'il y a dans le cœur du croyant qui a la bonne croyance. Il ne peut pas y goûter, il n'y goûtera jamais s'il ne se convertit pas à l'islam. C'est pour ça qu'il lui dit cette parole, ce misérable. Il lui dit, qu'est-ce que cela t'a apporté? Regarde la pauvreté dans laquelle vous vivez. Il lui dit, je m'engage, si tu embrasses ma religion, à en moins de 3 jours faire en sorte que toutes ces modestes maisonnettes dans lesquelles vous vivez deviennent des maisons en briques. Et on vous donnera alors des voitures et des moyens de locomotion, des biens et des nourritures. L'homme, avec son peu de science, lui a dit, j'ai une question à te poser. Et tout ce que tu viens de me dire, est-ce que tu crois que c'est toi qui me l'accorde ou c'est Dieu qui me l'accorde? Cette subsistance, les maisons, les voitures, l'enrichissement d'un coup, de manière subite, c'est toi qui me le donnes ou c'est Dieu? À la fin du débat, il lui a dit, je ne délaisserai jamais cette religion. Tu n'es pas le bienvenu ici. Regardez ça, dans le cheminement de cet homme, vers Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait face à un opposant qui ne s'est pas contenté de marquer une opposition. Mais plus encore, il l'a appelé dans le kufr. Il l'a appelé à venir de l'autre côté. Il a voulu l'empêcher de cheminer vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais Allah, tabaraka wa ta'ala, l'a préservé. Il est revenu une deuxième fois pour l'appeler au kufr. Et il lui a dit, il est inutile de revenir ici, tu n'y arriveras jamais. Tu n'es pas la bienvenue ici. Il s'est en allé, n'est plus jamais revenu. Résultat, nous sommes aujourd'hui en train de dire, نسأل الله أن يحفظ هذا الرجل وأن يبارك فيه وأن يثبته على الإسلام. Qu'Allah préserve cet homme, le récompense, qu'Allah le raffermisse sur l'islam. Et ils savent qui toucher. Car si on touche le chef de village, le peuple est susceptible de suivre. Wallahu al-musta'an. L'auteur, rahimahullah, nous dit, donc, tout cela, je l'ai dit parce que l'auteur a dit que celui qui continue dans ce chemin malgré sa solitude et son étrangeté, c'est un indice qu'il est véridique dans son amour pour Allah. Et j'espère que cet homme est véridique parce qu'il a délaissé cette dunya et il a gardé son din. وَمَنْ نَظَرَ فِي هَذِهِ الْكَلِمَاتِ الَّتِي تَضَمَّنَتْهَا هَذِهِ الْوَرَيْقَةِ عَلِمَ أَنَّهَا مِنْ أَهَمِّ مَا يَحْصُلُ بِهِ التَّعَامُنُ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَسَفَرُ الْهِجْرَةِ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَهَذَا الَّذِي قَصَدَ مُسَطِّرُهَا بِكِتَابَتِهَا وَجَعَلَهَا هَدِيَّتَهُ الْمُعَجَّلَةَ السَّابِقَةَ إِلَى أَصْحَابِهِ وَرُفَقَائِهِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ. L'auteur, rahimahullah, est en train de conclure. Et il dit, quiconque regarde avec méditation les quelques mots contenus par ces quelques feuilles, il parle de la lettre de Tabouk, qui valent un trésor inestimable. Quiconque médite les quelques mots cités dans ces quelques feuilles saura, que la chose la plus importante dans laquelle il convient l'entraide, c'est ça, c'est le voyage vers Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et c'est ce qu'a voulu celui qui a écrit ces quelques feuilles, nous dit l'auteur, rahimahullah. Là, il nous montre le but pour lequel il a écrit Ar-Risala al-Tabouki, à la lettre de Tabouk, car il voulait encourager ses amis et camarades dans la science, à qui il a adressé ses conseils, à s'entraider dans l'émigration vers Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, et il en a fait, il parle de lui-même, et il en a fait un présent offert à ses amis et ses compagnons dans la recherche de la science. Et ça, tu vois, la guidée des salafs. Les salafs, ils s'offraient la science. Les sahaba radiyallahu ta'ala anhum, il arrive qu'ils se rencontraient et se disaient, veux-tu que je t'offre un présent, un cadeau? Oui, répondait l'un d'entre eux. L'autre lui disait, j'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire, puis lui citer un hadith. Et ça, c'est le meilleur cadeau qu'on peut t'offrir. Une science utile, qui te guide vers Allah, et t'éloigne du feu de l'enfer. Il n'y a pas un cadeau plus précieux que celui-ci. L'auteur dit, wa ushhidu Allah, wa kafa billahi shahida. لَوْ تُوَفِيهِ مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ لَقَابَلَهَا بِالْقَبُولِ. Et je prends Allah à témoin, et Allah est suffisant comme témoin, que si l'un d'entre eux recevait ce message, ces conseils, il l'aurait accepté. On voit quoi ici? Le bien qu'il pense des gens qu'il conseille. Et que quand tu prodigues un conseil, tu penses du bien de la personne à qui tu as prodigué ce conseil. Et tu espères qu'elle l'acceptera. وَلَبَادَرَ إِلَى تَفَهُمِهَا وَتَدَبُّرِهَا وَعَدَّهَا مِنْ أَفْضَلِ مَا أَهْدَى صَاحِبٌ إِلَى صَاحِبِهِ. Toujours en train de parler de celui qui recevrait cette lettre parmi ses compagnons, il dit, il s'empresserait de la comprendre, de la méditer, et il considérerait cette lettre comme le meilleur cadeau que puisse offrir un compagnon à son compagnon. فإن غير هذا مما جريانات الركب الخبرية وإن تطلعت النفوس إليها ففائدتها قليلة وهي في غاية الرخص لكثرة جالبيها وإنما الهدية النافعة كلمة من الحكمة يهديها الرجل إلى أخيه المسلم. Autre que cela, autre que la science du Coran et de la Sunna, que les gens doués de raison savent s'offrir mutuellement, autre que cela, ne fait partie que de ce que l'on appelle, ce que l'auteur a appelé, ma jarayanat al-rakb al-khabariya, c'est-à-dire les discussions de passage, que l'on appelle al-majarayat, ou alors al-majarayanat, ça vient du verbe jara, qui veut dire se dérouler. Dans le sens où les gens passent leur temps à se dire ماذا جرى ماذا حصل أمس فلان قال كذا وفلان فعل كذا les discussions où les gens passent leur temps à dire que s'est-il passé, que s'est-il passé, un tel a fait telle chose, tel autre a fait telle autre chose, des discussions qui sont sans grande valeur en réalité. Et l'auteur, rahimahullah, nous dit qu'elles sont sans grande valeur, même si les âmes aiment ce genre de discussion inutile, il n'y a pas une grande utilité. À l'image d'une marchandise proposée à la vente, où il n'y a pas beaucoup de demandeurs et beaucoup de quantités proposées, que va-t-il se passer automatiquement? Le prix va baisser, car les gens n'en veulent pas. C'est la même chose pour les discussions de la dunya. Les gens veulent écouter, mais à la fin, ils se rendent compte qu'il n'y a aucune valeur dans ces discussions, si elles n'ont pas une utilité pour la personne. Et le véritable cadeau utile, nous dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, c'est la parole de sagesse que l'homme offre à son frère musulman. Ça, c'est un cadeau. Ça, c'est le véritable cadeau qui t'est offert et que tu puisses offrir aussi. C'est la parole de sagesse. Le fait de commander un bien, d'interdire un mal, de donner une explication d'un verset, de donner une explication d'un hadith. Et ne pensez pas qu'il faille être savant absolument pour pouvoir le faire, non. Ce que tu as entendu et lu de bien avec science et certitude, tu le transmets et tu fais partie, bi'idhnillah ta'ala, à ton niveau et ton degré de ces gens-là. L'auteur, rahimahullah, dit ensuite, وَمَنْ أَرَادَ هَذَا السَّفَرْ فَعَلَيْهِ بِمُرَافَقَةِ الْأَمْوَاتِ الَّذِينَ هُمْ فِي الْعَالَمِ أَحْيَا فَإِنَّهُ يَبْلُغُ بِمُرَافَقَتِهِمْ إِلَى مَقْصَدِهِ. Une parole en or. Cette parole, je vais la traduire et l'envoyer dans un message, Inch'Allah. Tellement elle est précieuse. Il dit, et quiconque souhaite entrer dans ce voyage, le voyage vers Allah, subhanahu wa ta'ala, il lui incombe d'accompagner les morts qui restent vivants sur terre. C'est-à-dire de prendre pour modèle ceux qui sont morts parmi les sahaba, parmi les salafs, parmi les ulama, parmi les pieux, mais dont les noms ne cessent d'être évoqués, tellement le bien qu'ils ont donné et apporté à la communauté est utile. Ils sont morts depuis des années, mais on ne cesse de parler d'eux. Et je dis, sans aucun doute, Ibn al-Qayyim rahimahullah en fait partie. Subhanallah. Au moment où il écrit ces quelques lignes, est-ce qu'il sait qu'il va en faire partie? Il ne sait pas. Peut-être qu'il l'a espéré, rahimahullah. Mais regardez, tant d'années après, nous sommes là dans ce pays, dans cet endroit, à étudier ces paroles et en tirer profit. Et le fait de lire les livres des gens de science, de lire la vie des salafs, la vie des sahaba, la vie des pieux prédécesseurs, c'est le fait de les prendre comme compagnie. C'est le fait de les prendre comme fréquentation. C'est comme si tu les fréquentais, car tu les prends pour modèle, tu les suis, tu te conduis comme eux. Et plus tu lis, plus tu apprends qui ils sont, plus tu les prends pour modèle et tu les as choisis comme fréquentation, tu auras alors les meilleures fréquentations, car nous dit l'auteur, rahimahullah, en les fréquentant, la personne atteint son but. Quel but? Nous parlons du voyage vers Allah. Elle arrive à l'agrément d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Il dit ensuite, وَلْيَحْذَرْ مِنْ مُرَافَقَةِ الْأَحْيَاءِ أَلَّذِينَ فِي النَّاسِ أَمْوَاتِ. Et qu'il prenne garde, c'est-à-dire celui qui veut entreprendre ce voyage vers Allah, qu'il prenne garde à prendre pour compagnons les vivants qui sont chez les gens comme des morts. Ils sont vivants physiquement, mais chez les gens ils sont comme des morts. Ils n'ont aucune importance, les gens ne les aiment pas, les gens ne parlent pas d'eux. Leur rappel est oublié, leur nom n'est jamais mentionné, on ne veut pas en parler. Si bien que pour certains, quand leur nom est mentionné, soit ils se bouchent les oreilles, soit ils disent « change de sujet, ça ne m'intéresse pas ». Sais-tu qu'a fait telle personne? Je n'ai pas envie de savoir. Ça ne m'intéresse pas. Ça n'a pour moi aucune importance, ne me parle pas d'un tel ou d'un tel. Qu'il a gagné le million ou le milliard, j'en ai rien à faire. Pour moi, ça n'a aucune importance, parce que pour moi, il est mort. Il est mort parce qu'il n'est pas avec Allah. Et comme il n'est pas avec Allah, il ne m'est pas utile. dès lors qu'il ne m'est pas utile dans ce voyage vers Allah pour lequel j'ai été créé, j'en ai que faire de ce que tu vas me raconter de sa vie. Et c'est là que tu te libères et que tu ne t'attaches plus aux gens de la dunya pour leur dunya, mais plutôt tu te diriges vers les gens du din, même s'ils sont morts. Tu lis leur vie, tu les prends pour modèle. C'est comme s'ils sont vivants pour toi. Alors que les autres qui sont vivants, c'est comme s'ils étaient morts pour toi. L'auteur, rahimahullah, te dit, si tu veux voyager vers Allah, suis les gens morts qui sont vivants par le bien qu'ils ont apporté. Et éloigne-toi des gens vivants qui sont morts à cause du mal qu'ils propagent. فَإِنَّهُمْ يَقْطَعُونَ عَلَيْهِ طَرِيقًا فَلَيْسَ لِهَذَا السَّالِكِ أَنْفَعُ مِنْ تِلْكَ الْمُرَافَقَةِ وَأَوْفَقُ لَهُ مِنْ هَذِهِ الْمُفَارَقَةِ L'auteur, rahimahullah, nous dit, car ces gens-là te barrent la route vers Allah. Les gens qui sont vivants physiquement et morts, car ils n'ont aucun bien à t'apporter, ils te barrent la route. Subhanallah, il y a des gens, lorsque tu t'assois avec eux quelques minutes, tu sens ton cœur noircir. Ils ne t'ont pas apporté de bien. Ces gens-là te barrent la route vers Allah. Celui qui emprunte la voie vers Allah, nous dit l'auteur, ne trouvera pas plus utile pour lui que de fréquenter ceci et d'abandonner cela. Ceci, c'est-à-dire les morts qui sont vivants dans le bien qu'ils ont apporté à la communauté. Et cela, c'est-à-dire les vivants physiquement morts à cause du mal qu'ils font. فَقَدْ قَالَ بَعْضُ مَنْ سَلَفْ Certains salafs ont dit شَتَّانَ بَيْنَ أَقْوَامٍ مَوْتَى تَحْيَى الْقُلُوبُ بِذِكْرِهِمْ وَبَيْنَ أَقْوَامٍ أَحْيَى تَمُوتُ الْقُلُوبُ بِمُخَالَطَتِهِمْ Subhanallah. Quelle différence il y a entre des peuples de gens morts, mais dont le rappel fait vivre les cœurs, et des peuples de gens vivants, mais dont la fréquentation fait mourir les cœurs. فَمَا عَلَى الْعَبْدِ أَضَرُّ مِنْ عُشَرَائِهِ وَأَبْنَاءِ جِنْسِهِ فَإِنَّ نَظَرَهُ قَاصِرٌ وَهِمَّتَهُ وَاقِفَةٌ عِنْدَ التَّشَبُّهِ بِهِمْ وَمُبَاهَاتِهِمْ وَالسُّلُوكِ أَيَّةً سَلَكُوا حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَأَحَبَّ أَنْ يَدْخُلَ مَعَهُمْ L'auteur, rahimahullah, nous dit, il n'y a pas plus nuisible pour le serviteur d'Allah, subhanahu wa ta'ala, que les gens de son entourage et les gens qui sont avec lui autour de lui. C'est-à-dire, dès lors qu'ils sont mauvais, il n'y a pas plus nuisible qu'eux. Pourquoi ? Parce que l'individu n'a pas le regard lointain. Et en général, il prend exemple. Il prend l'exemple des gens qui l'entourent. Et si ces gens qui l'entourent sont mauvais, il les suivra. À un point tel que s'il pénètre dans le terrier du lézard, il entrera avec eux. Et bien sûr, ça c'est pris d'un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ » Vous suivrez certes les voies de ceux qui vous ont précédés, شِبْرًا بِشِبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعًا en pan par en pan et coudé par coudé, حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبِّنْ لَدَخَلْتُمُوا à un point tel que s'il pénètre dans le trou, le terrier du lézard, vous y entrerez. Et pourquoi est-ce qu'il a choisi le terrier du lézard, sallallahu alayhi wa sallam ? Parce que c'est un trou qui est sinueux. Ce n'est pas un trou qui est droit. C'est un trou qui est sinueux, vous comprenez ? C'est-à-dire que le lézard, pour entrer dans son trou, il doit se plier dans tous les sens. C'est donc difficile. Mais vous les suivrez tellement que même s'ils entrent dans ce genre de trou, vous vous plierez comme eux et vous les suivrez. Wal'iyadu billah. Qu'Allah nous en préserve. Et c'est bien ce que l'on constate dans cette époque. Qu'Allah guide nos cœurs. L'auteur, rahimahullah, dit ensuite, فَمَتَا تَرَقَّتْ هِمَّتُهُ مِنْ صُحْبَتِهِمْ إِلَى صُحْبَتِ مَنْ أَشْبَاحُهُمْ مَفْقُودَ وَمَحَاسِنُهُمْ وَآثَارُهُمُ الْجَمِيلَةُ فِي الْعَالَمِ مَشْهُودَ اِسْتَحْدَثَ بِذَلِكَ هِمَّةً أُخْرَى وَعَمَلًا آخَرَ Et dès lors que la personne lève sa motivation à un point tel qu'elle s'écarte de fréquenter ce genre de personnes, malgré la proximité qu'elle a à la base avec elle, pour fréquenter ceux dont les effets et dont les traces sont présents dans le monde. Cela lui donnera alors une motivation et des bonnes actions qu'elle fera. وَصَارَ بَيْنَ النَّاسِ غَارِبًا. Mais la personne deviendra étrangère au milieu des gens. Parce que tous les gens sont baignés dans leurs péchés, dans leurs passions, ils sont tous là, et toi tu es là à suivre à mort, et tu n'as rien compris. Mais reviens à notre époque, sois comme tout le monde. On ne va pas revenir à l'époque des chameaux, et j'en passe. Des paroles tout aussi bêtes les unes que les autres. Parce que toi, tu cherches à suivre ce qu'Allah aime. Subhanahu wa ta'ala. Peut-on blâmer quelqu'un qui s'efforce d'apprendre ce qu'Allah a prescrit et d'appliquer ce qu'Allah a ordonné? Subhanahu wa ta'ala. On ne peut le faire que quand on a perdu dans le cœur la guidée d'Allah. Et la guidée, c'est un don d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Mais ces gens-là, il faut les appeler à Allah. Et l'auteur a dit, وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ مَشْهُورًا وَنَسِيبًا وَلَكِنَّهُ غَرِيبٌ مَحْبُوبٌ يَرَى مَا النَّاسُ فِيهِ وَهُمْ لَا يَرَوْنَ مَا هُوَ فِيهِ يُقِيمُ لَهُمُ الْمَعَاذِيرَ مَا اسْتَطَاعَ وَيَنْصَحُهُمْ بِجُهْدِهِ وَطَاقَتِهِ سَائِرًا فِيهِمْ بِعَيْنَيْنِ. La personne qui voudrait donc se séparer de ce genre de fréquentation, malgré la proximité qu'elle a avec elle, pour rejoindre ceux qui ont laissé des traces, des effets positifs dans la communauté malgré le fait qu'ils soient morts, et les prendre pour modèle dans le comportement, dans la façon d'agir, dans la croyance avant tout, dans les actions, cette personne deviendra étrangère, même si elle est d'un haut rang social. Elle deviendra étrangère chez les gens. Mais, nous dit l'auteur, cet individu sera un étranger aimé. C'est un étranger qu'Allah aime, subhanahu wa ta'ala. Et ce sera quelqu'un qui verra ce dans quoi les gens sont, sans que les gens ne voient ce dans quoi lui il est. C'est-à-dire que quand tu es guidé par Allah, subhanahu wa ta'ala, et que tu es mêlé à des gens qui n'ont pas reçu cette guidée d'Allah, ils ne comprennent rien de ce que tu fais. C'est pour ça qu'ils te trouvent étrange et qu'ils te trouvent bizarre. Chaque fois que tu vas faire quelque chose, oh, encore une fois, encore un nouveau, une nouvelle parole ou quelque chose de nouveau. Le shir à la télé, il n'a pas dit ça. Quel qui t'a dit que c'est un shir? Parce qu'il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim et qu'il est filmé. C'est parce que tu es ignorant, tu ne sais pas qui est un shir, qui n'est pas un shir. La personne que je connais, elle a lu tant de livres, elle ne m'a jamais dit ça. Donc les repères qui vont être pris et suivis ne sont pas les bons, ils sont erronés. Ils sont erronés. Ainsi, la personne bien guidée va voir la réalité de l'égarement dans lequel ces gens sont. Mais ces gens, à cause de leur égarement, sont ignorants et insouciants. Ils n'arriveront donc pas à percevoir et à voir la guidée dans laquelle lui il est. C'est pour ça qu'il faut les regarder avec la pitié. Parce que ce sont des massakines. Ce sont des pauvres gens. Et il ne faut jamais à ce moment-là te dire, moi, bien sûr. Comment toi, bien sûr? Toi, tu es guidé, toi, tu mérites. C'est ça que tu veux dire? Prends garde à l'orgueil. Car Allah guide qui il veut et il égare qui il veut. Et là, l'auteur, rahimahullah, dit, يُقِيمُ لَهُمُ الْمَعَذِيرَ مَا اسْتَطَاعَ. Tant qu'il les peut, il leur trouve des excuses. Mais bien, comme il dit, tant qu'il le peut. Dès qu'il y a un verset ou un hadith, on ne trouve pas d'excuses. Haram, haram. Mais, tant qu'on peut comprendre la personne pour essayer de la guider, on le fait. وَيَنْصَحُهُمْ بِجُهْدِهِ وَطَاقَتِهِ. Il leur prodigue le conseil en fournissant ses efforts et sa capacité. سَائِرًا فِيهِمْ بِعَيْنَيْنِ. En cheminant au milieu d'eux avec deux yeux. Ces gens-là, il faut les regarder avec deux yeux. Le premier, عَيْنٌ نَاظِرَةٌ إِلَى الْأَمْرِ وَالنَّهِي بِهَا يَأْمُرُهُمْ وَيَنْهَاهُمْ وَيُوَالِيهِمْ وَيُعَادِيهِمْ ويؤدي إليهم الحقوق ويستوفيها عليهم. Le premier œil avec lequel ces gens doivent être vus, c'est l'œil de l'ordre et de l'interdit d'Allah, par lequel la personne va ordonner le convenable et interdire le blâmable, par lequel la personne va aimer ou détester les gens en fonction de ce qu'ils font, par lequel la personne va s'acquitter de ses devoirs envers les gens et va faire valoir ses droits envers eux aussi. Je répète, nous sommes en train de parler de celui qui, à cause de son suivi du chemin droit et du fait qu'il a pris pour modèle des gens pieux, bien qu'ils soient morts, mais dont les utilités sont toujours présentes, il va forcément devenir étrange chez les gens. Mais c'est un étranger qui est aimé d'Allah. C'est un étranger à qui Allah va donner une basira, une clairvoyance telle qu'il va voir la tristesse, l'égarement des gens, bien que eux n'arrivent pas à voir la guidée et la joie dans laquelle il est. Et il doit les conseiller autant qu'il peut en les regardant avec deux yeux. Le premier, c'est l'œil de l'ordre et de l'interdit, par lequel il leur donne des ordres et les interdit. Il leur ordonne le convenable, il leur interdit le blâmable. Il aime ou déteste les gens en fonction de ça. Il s'acquitte de ses devoirs envers eux et il fait valoir ses droits envers eux aussi. Le deuxième œil. وَعَيْنُ النَّظِرَةٌ إِلَى الْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ. L'œil qui regarde le destin d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Car c'est avec cet œil-là que tu vas avoir la pitié avec les gens. Car après tout, et malgré tout, c'est le décret d'Allah. Ce que tu vois comme égarement de ces gens, c'est ce qu'Allah a décrété et voulu par une sagesse infinie, subhanahu wa ta'ala. Rien n'est fait et décrété par Allah, Azza wa Jal, sans qu'il ne s'y trouve derrière des sagesses immenses et grandioses qu'Allah connaît. Et il peut arriver qu'il en dévoile certaines et qu'il laisse les autres cachées, subhanahu wa ta'ala, selon ce qu'implique sa sagesse. Donc tu dois leur ordonner, leur interdire, mais aussi les regarder avec l'œil du destin. Biha yarhamuhum wa yad'u lahum wa yastaghfiru lahum. Avec cet œil-là, avec un œil, tu leur as ordonné de faire ce qu'Allah a commandé, interdit de faire ce qu'Allah a interdit, et avec l'autre œil, tu sais que l'état dans lequel ils sont a été décrété par Allah, donc tu as pitié pour eux. Tu leur fais miséricorde, tu invoques Allah pour leur guider, tu demandes à Allah de leur pardonner. وَيَلْتَمِسُ لَهُمْ وُجُوهَ الْمَعَذِيرِ فِيمَا لَا يُخِلُّ بِأَمْرٍ وَلَا يَعُودُ بِنَقْضِ شَرْعٍ. Et tu leur trouves des excuses, tant que cela, le fait de leur trouver des excuses, ne viennent pas faillir à un ordre d'Allah ou annuler une prescription divine. Ça, c'est la limite de trouver des excuses aux gens. On trouve des excuses aux gens tant que possible, sans outrepasser les limites fixées par Allah. On ne dit pas, dans l'islam, il faut trouver des excuses aux gens, alors, il a commis tel péché, à chaque fois, c'est pas grave. C'est faux ça. On leur trouve des excuses tant qu'on peut le faire. Dès qu'il y a une limite fixée par Allah, on ne franchit pas cette limite. Et ça, c'est la perfection et la beauté de l'islam. Subhanallah. L'auteur dit قَدْ وَسِعَتْهُمْ بَسْطَتُهُ وَرَحْمَتُهُ وَلِينُهُ وَمَعْذِرَتُهُ. La personne qui les appelle à Allah doit être habitée par la largesse, par la miséricorde, par la douceur. Ça, c'est la base dans l'appel à Allah. La base dans l'appel à Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est la douceur, c'est la largesse de la poitrine, c'est le fait de recevoir les gens, de leur parler, de patienter avec eux, de supporter leurs nuisances éventuelles. On ne dit pas qu'il faut se taire sur le batil, abadan. On ne dit pas qu'il faut se taire sur le faux, sur ce qui est interdit par Allah. Mais on dit que la base dans l'appel à Allah, c'est la douceur. Mais dès lors qu'il faudra utiliser la dureté, s'il faut le faire, il faut le faire, à sa juste mesure, tout en respectant la voix des salafs dans tout cela, la voix du Coran. وَاقِفًا عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. En s'arrêtant à la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, le verset dans suratul A'raf, c'est le verset 199, il nous dit, subhanahu wa ta'ala, dans le sens rapproché du verset, accepte ce qui te provient des gens, commande ce qui est convenable et éloigne-toi des ignorants. Ces trois choses qui ont été citées ici dans la manière d'agir du prédicateur, du conseiller, de celui qui oriente autrui lorsqu'il se conduit avec autrui justement. Il va respecter ces trois choses-là pour réussir. L'auteur rahimahullah dit mutadabbiran lima tadammanathu hadhihi al-ayah min husn al-mu'asharati ma'a al-khalq wa ada'i haqqi Allah fihim wa salamati min sharrihim. En méditant ce verset, il contient le bon comportement dans la fréquentation des gens, mais aussi le fait de s'acquitter du devoir envers Allah face aux gens, qui consiste à leur ordonner le convenable et leur interdire le blâmable, et se préserver de leur mal. Ça, c'est dans les trois points cités dans le verset, il y a ces trois choses-là. Il y a le fait de bien se comporter avec les gens, il y a le fait, malgré le bon comportement que l'on a avec eux, on ne veut pas dire de fermer les yeux sur le mal qu'ils font et le bien qu'ils délaissent. Il y a le fait de les appeler aux ordres d'Allah et il y a aussi le fait d'épargner sa personne de leur mal. Vous allez voir, l'auteur dit « فَلَوْ أَخَذَ النَّاسُ كُلُّهُمْ بِهَذِي الْآيَةِ لَكَفَتْهُمْ وَشَفَتْهُمْ. » Si les gens prenaient ce verset, il leur aurait été suffisant et guérissant. فَإِنَّ الْعَفْوَ مَا عَفَى مِنْ أَخْلَاقِهِمْ وَسَمَحَتْ بِهِ طَبَائِعُهُمْ وَوَسِعَهُمْ بَذْلُهُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَأَخْلَاقِهِمْ فَهَذَا مَا مِنْهُمْ إِلَيْهِ. La première chose citée par Allah lorsqu'il nous dit خُذِ الْعَفْوَ, ici ça a été traduit par accepte ce qu'on t'offre de raisonnable. Je dirais plus, accepte ce qui te provient des gens. Et ce qui a été appelé al-afwa ici, c'est ce qui vient des gens comme caractère, comme comportement qui sera proportionnel à leur nature et à leur façon d'être. Les gens sont différents. Certains sont très patients, d'autres moins, pendant que d'autres encore sont complètement impatients. Certains sont de bons comportements, souriants, le visage radieux. D'autres n'y arrivent pas. Ils sont secs, ils sont un peu plus durs. Les gens diffèrent et varient dans leur manière d'agir. Toi, quand tu vas les appeler Allah Azza wa Jal, tu dois le prendre en compte. Et tu dois faire comme Allah Azza wa Jal a dit, خُذِ الْعَفْوَ. Prends ce qui te provient des gens. Reçois le comportement que les gens te manifestent. Tu dois le prendre avec endurance. Tu dois le prendre avec endurance. Mais en même temps, l'auteur dit وَأَمَّا مَا يَكُونُ مِنْهُ إِلَيْهِمْ فَأَمْرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَهُوَ مَا تَشْهَدُ بِهِ الْعُقُولُ وَتَعْرِفُ حُسْنَهُ وَهُوَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ. Ça c'est ce qui te provient des gens. Mais toi, tu dois leur faire parvenir quelque chose qui va provenir de toi. Qu'est-ce que c'est? Tu dois leur ordonner le bien. Ce qu'on appelle al-ma'ruf. Tu dois leur ordonner le bien. Ce bien a été appelé ma'ruf, qui veut dire connu, quelque chose qui est connu, parce que le bien est connu par les gens. Le bien est connu par les gens, il a donc été appelé ma'ruf, connu. وَأَمَّا مَا يَتَّقِي بِهِ أَذَى جَاهِلِهِمْ فَالْإِعْرَضُ عَنْهُمْ وَتَرْكُ الْإِنْتِقَامِ لِنَفْسِهِ وَالْإِنْتِصَارِ لَهَا. Quant à ce avec quoi tu fais face aux nuisances de l'ignorant parmi les gens que tu veux appeler à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien c'est le fait de te détourner de leurs nuisances et de ne pas apporter à leurs nuisances d'attention ni de considération. Car l'ignorant va te faire du mal. si tu te concentres sur le mal qu'il va te faire, il va t'en faire davantage. Et avec l'ignorant, tu vas te fatiguer. Car l'ignorant, ne comprenant pas ce que toi tu as pu comprendre grâce à Allah, Azza wa Jal, ne va pas avoir ton raisonnement et ta façon d'agir. Il ne sera donc pas à ton niveau. Alors il va agir selon son ignorance, mais l'ignorance n'appelle pas un bien. Il va te nuire. Et toi, tu vas lui répondre. Il va te répondre plus violemment. Tu vas lui répondre plus violemment. Jusqu'à où ça va mener? Quelqu'un qui est en haut ne doit pas descendre. Il doit faire monter les gens avec lui. Il ne descend pas en bas. Il ne descend pas. Car on ne dit pas il ne descend pas en bas. En bas, ça s'appelle un pléonasme. Si on descend, c'est forcément en bas. Il ne descend pas. Ça, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne. De ne pas se venger pour sa personne. On te nuit, on atteint ta personne. Souviens-toi qu'Ibn al-Qayyim a dit, dans la route vers Allah, tu n'accordes pas d'importance à ta personne. L'auteur a dit, فَأَيُّ كَمَالٍ لِلْعَبْدِ وَرَأَ هَذَا. Quelle perfection y a-t-il pour le serviteur derrière celle-ci? Quelle perfection? Celle citée dans le verset. Il reçoit ce que les gens lui font. Ça peut être un bien, ça peut être un mal, ça peut être un bien mêlé à un mal, mais il sait. Car sa poitrine est large, il sait recevoir. Il reçoit, il a le dos solide, il reçoit ce que les gens lui envoient. Et qu'est-ce qu'il fait en face de ça? Il les appelle au bien, il leur interdit le mal. Et il ne donne pas d'importance à ce que va faire l'ignorant parmi eux. Celui-là, il va être aimé. Il va être élevé et les gens vont toujours revenir vers lui. L'auteur dit ensuite, وَأَيُّ مُعَاشَرَةٍ وَسِيَاسَةٍ لِلْعَالَمِ أَحْسَنُ مِنْ هَذِهِ الْمُعَاشَرَةِ وَسِيَاسَةٍ. Quelle manière de conduire envers les gens dans le monde y a-t-il de meilleur que celle-ci? وَلَوْ فَكَّرَ الرَّجُلُ فِي كُلِّ شَرٍ يَلْحَقُهُ مِنَ الْعَالَمِ أَعْنِ الشَّرَّ الْحَقِيقِيَ الَّذِي لَا يُوجِبُ لَهُ الرِّفْعَةَ وَالزُّلْفَ مِنَ اللَّهِ وَجَدَ سَبَبَهُ الْإِخْلَالَ بِهَذِهِ الثَّلَاثِ أَوْ بِبَعْضِهَا وَإِلَّا فَمَعَ الْقِيَامِ بِهَا فَكُلُّ مَا يَحْصُلُ لَهُ مِنَ النَّاسِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَإِنْ كَانَ شَرًّا فِي الظَّاهِرِ. Il dit que si l'homme méditait sur tout le mal que les gens peuvent lui faire, ou sur tout le mal qui atteint sa personne dans le monde, il verra que la cause en est le délaissement de l'une de ces trois choses citées dans le verset. Car quand on applique ces trois choses citées dans le verset, tout ce qui paraît comme étant un mal, une nuisance pour la personne, devient un bien en réalité. فَإِنَّهُ مُتَوَلِّدٌ مِنَ الْقِيَامِ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ إِلَّا خَيْرٌ وَمَا وَرَدَ فِي حَالَةِ شَرٍ وَإِنْ وَرَدَ فِي حَالَةِ شَرٍ وَآذَا. Car les nuisances que les gens te feraient, qui sont dues au bien auquel toi tu les as appelés, aux ordres d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ces nuisances-là, elles ont découlé de l'ordre d'obéir à Allah que tu leur as donné. Et il ne peut découler de cela qu'un bien, même si en apparence c'est un mal, ces nuisances que les gens t'ont fait. Et Allah Azza wa Jal nous donne en exemple ce que dit Ibn al-Qayyim, comme a dit Ta'ala, Inna alladhina ja'u bil ifki 'usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khayrun lakum. L'histoire de la diffamation de Aisha radhiyallahu anha lorsqu'elle a été accusée à tort d'avoir trahi son époux et de forniquer, une chose dont elle est éloignée qu'Allah l'agré. Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla a dit dans la fin de cette histoire dans le Coran? La tahsabuhu sharran lakum bal huwa khayrun lakum. Ne pensez pas que cela est un mal pour vous. Pourtant, c'est une nuisance. On a insulté et accusé à tort la fille du messager d'Allah, l'épouse du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, la fille d'Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala an. C'est une énorme nuisance. Mais Allah azza wa jalla dit, ne pensez pas que c'est un mal pour vous. c'est en réalité un bien pour vous, parce que ce qui va en découler est énorme chez Allah. وقال تعالى لنبيه فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. Également, Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset فاعف عنهم واستغفر لهم, c'est-à-dire le verset est dans surat Ali Imran. Pardonne-leur donc et implore pour eux le pardon d'Allah. Fa'afu anhum, je dirais plus pour être plus exact, qu'Allah Azza wa Jal a donné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ordre de passer outre les nuisances qui lui ont été faites. De passer outre. Fa'afu anhum. Fais comme s'il ne t'avait rien fait. Passe outre. Dépasse ça. Laisse cela derrière toi. C'est ça que ça veut dire. Fa'afu anhum wa astaghfir lahum. Implore pour eux le pardon d'Allah. Wa shawirhum fil amr. Et consulte-les dans les affaires. Fa'idha azamta. Et lorsque tu t'es décidé, fatawakkal ala Allah. Remets-toi-en uniquement à Allah. Place ta confiance en Allah. L'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit وَقَدْ تَضَمَّنَتْ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ مُرَاعَاتَ حَقِّ اللَّهِ وَحَقِّ الْخَلْقِ. Ces quelques mots ont pris en compte le droit d'Allah, Azza wa Jal, et le droit des créatures. فَإِنَّهُمْ إِمَّا أَنْ يُسِيءُوا فِي حَقِّ اللَّهِ أَوْ فِي حَقِّ رَسُولِهِ. Car ces créatures en question, soit quand elles vont te nuire dans quelque chose ayant un rapport avec le droit d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ou le droit de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. فَإِنْ أَسَاءُوا فِي حَقِّكَ, comme si Allah disait, s'ils t'ont fait du mal dans ton droit à toi, ô messager, فَقَابِلْ ذَلِكَ بِعَفْوِكَ عَنْهُمْ, reçois cela en passant outre de ce qu'ils ont fait, en effaçant ce qu'ils ont fait, en n'y prêtant pas attention. وَإِنْ أَسَاءُوا فِي حَقِّي, et si c'est dans mon droit qu'ils ont fait du mal, فَاسْأَلْنِي أَغْفِرْ لَهُمْ وَأَسْتَجْلِبْ قُلُوبَهُمْ, implore-moi de leur pardonner et d'attirer leur cœur. Et d'attirer leur cœur. وَأَسْتَخْرِجْ مَا عِنْدَهُمْ مِنَ الرَّأْيِ بِمُشَاوَرَتِهِمْ, et je ferai sortir leurs avis quand tu les consulteras. فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْرَى فِي اسْتِجْلَابِ طَاعَتِهِمْ وَبَذْلِهِمُ النَّصِيحَةِ, car cela est meilleur pour les attirer vers l'obéissance à Allah et les conseiller. فَإِذَا عَزَمْتَ عَلَى أَمْرٍ فَلَا اسْتِشَارَةَ بَعْدَ ذَلِكَ, et lorsque tu t'es décidé dans une affaire, alors tu ne consultes plus. بَلْ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, mais plutôt place ta confiance en Allah. وَامْضِي لِمَا عَزَمْتَ عَلَيْهِ مِنْ أَمْرِكَ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ, et avance dans la décision que tu as prise, car certes Allah aime ceux qui placent en lui la confiance. Quand Allah Azza wa Jalla a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, en gros, ne prête pas attention à ce qu'ils font, ça c'est s'ils t'ont fait du mal à toi, à ta personne. Ne prête pas attention à la nuisance qu'ils t'ont faite. Et si la nuisance revient à mon droit, c'est par rapport au droit d'Allah, alors implore pour eux le pardon. J'attirerai leur cœur vers toi, je les ferai revenir, car tu dois attirer les cœurs des gens pour les faire revenir à la voie d'Allah, subhanahu wa ta'ala. L'auteur rahimahullah a dit en concluant ce chapitre, فَهَذَا وَأَمْثَالُهُ مِنَ الْأَخْلَاقِ الَّتِي أَدَّبَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ وقال فيه وإنك لعلى خلق عظيم قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن. Cet exemple et d'autres montrent les comportements enseignés par Allah subhanahu wa ta'ala à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certes, Allah a dit de lui dans le sens du verset, et tu es d'une moralité éminente. Le prophète alayhi salatu wa sallam avait le meilleur des comportements, au point où Aïcha radiallahu anha a dit, son comportement, c'était le Coran. Le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était l'application du livre d'Allah. L'auteur conclut: وَهَذَا لَا تَتِمُّ إِلَّا وَهَذِهِ لَا تَتِمُّ إِلَّا بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءِ. Et cela ne peut se voir réalisé qu'en réunissant trois choses. La première, c'est-à-dire d'avoir ces nobles caractères, ce haut comportement, on ne peut le faire qu'en réunissant trois choses. La première, s'agissant de la personne voulant avoir ce bon comportement. أن يكون العود طيبا فأما إذا كانت الطبيعة جافية غليظة يابسة عسر عليها مزاولة ذلك علما وإرادة وعملا بخلاف الطبيعة المنقادة اللينة السلسة القياد فإنها مستعدة إنما تريد الحرث والبذر. La première chose pour arriver à ces caractères, c'est d'être d'une nature bonne. Car quand on est de nature sèche, rude, dure, il est dur d'arriver à ce comportement-là. N'est-ce pas, Sérénée? Il est dur d'arriver à ce comportement-là, de savoir accepter, recevoir ce que les gens te font, patienter, les appeler à Allah, continuer, endurer. Beaucoup parmi les gens choisissent de fuir. Ils disent, je ne vais plus à tel endroit. Pourquoi est-ce qu'on ne te voit plus à la mosquée? Il te dit, les gens sont trop difficiles. Ils ont choisi la fuite et d'aller vers un autre endroit en pensant qu'il trouvera des gens meilleurs alors que les gens sont tous pareils. Il y a des gens bien, des gens moins bien, des gens de bon comportement, des gens de comportement moins bien. Où que tu ailles, tu feras face à toute catégorie de personnes. La solution n'est pas dans la fuite. La solution est dans le fait d'éduquer ton âme à recevoir ce qui vient des gens et à endurer cela. Cela fera de toi quelqu'un de bien. Car si tous les gens prenaient la fuite, comment deviendrait la communauté? Comment le message d'Allah serait transmis si seulement ces gens comprenaient l'importance de cela? Donc la personne, quand elle est de nature dure, rude, sèche, ce n'est pas facile pour elle d'avoir ces comportements. Alors que si elle est de nature douce et qu'elle travaille sa personne, elle sera à l'exemple de la terre qui n'attend qu'à être cultivée. Deuxièmement, أن تكون النفس قوية غالبة قاهرة لدواعي البطالة والغي والهوى فإن هذه أعداء الكمال فإن لم تقوى النفس على قهرها وإلا لم تزل مغلوبة مقهورة. La deuxième chose, c'est que l'âme de la personne doit être forte, vaincante, dominante. Elle doit dominer les passions et l'égarement, car ces choses-là sont l'ennemi de la perfection de l'âme. Elle doit être forte. Et si la personne n'est pas forte dans sa personne, eh bien, elle demeurera vaincue. Et elle n'arrivera pas à voir ces comportements-là. Donc, c'est qu'en quelque sorte, quand on n'arrive pas à endurer, à patienter, en quelque sorte, on a été vaincu par le fait de ne pas réussir à combattre son nafs et l'éduquer. Troisièmement, عِلْمٌ شَافٍ بِحَقَائِقِ الْأَشْيَاءِ وَتَنْزِيلُهَا مَنَازِلَهَا يُمَيِّزُ بِهِ بَيْنَ الشَّحْمِ وَالْوَرَمِ وَالزُّجَاجَةِ وَالْجَوْهَرَةِ. Il faut avoir une science te permettant de distinguer les choses, de savoir faire la différence entre elles, de prendre en compte les choses. Car sans science, tu ne sauras pas faire la différence entre le verre et le diamant. Pour toi, c'est la même chose. Le diamant, il vaut des milliards, le verre, il ne vaut rien. Mais si tu n'as pas la connaissance, tu ne sais pas faire la différence entre cela. L'auteur a dit, فَإِذَا اجْتَمَعَتْ فِيهِ هَذِهِ الْخِصَالُ الثَّلَاثَةَ وَسَاعَدَهُ التَّوْفِيقُ فهو من القسم الذين سبقت لهم من ربهم الحسنى وتمت لهم العناية وهؤلاء هم القسم الأول المذكورون في قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم الحديث وقد تقدم. Lorsque la personne réunit en elle ces trois choses-là, la douceur, la bonté de l'âme, la force d'âme et enfin la science, et qu'elle est aidée par Allah, par l'assistance qu'Allah lui donne, elle fera partie alors des gens qui ont devancé à l'agrément d'Allah et qui gagneront bien sûr le paradis. Et elle fera partie de la première catégorie des gens cités dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'image, l'exemple de ceux avec quoi Allah m'a envoyé comme science et guidé, vous vous souvenez du hadith. On l'a étudié dans un chapitre précédent. Wallahu a'lam, sallallahu wa sallam, wa baraka ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.